Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Juillet 2016, à l'occasion de la 70e édition du Festival d'Avignon, Pascal Quignard et Marie Vial présentent La Rive dans le Noir. Pour leur première création ensemble, Marie Vial et Pascal Quignard plongent, comme deux oiseaux, dans l'obscurité de la Seine. Ils en appellent au chamanisme. Ils traversent les ombres de l'enfance, des mondes sauvages, des temps anciens et des revenants. Dans ce spectacle, sur scène, avec Pascal Quignard et Marie Vial, deux oiseaux, une corneille et une chouette effraie. Ces oiseaux de scène ont été éduqués par Tristan Plot. Le Dahu a eu la chance de passer dans les coulisses de La Rive dans le Noir et de rencontrer Tristan Plot pour découvrir son travail d'éducateur d'oiseaux.
Ici ?
Oui.
Chartreuse ?
Incroyable.
Pourquoi c'est incroyable ?
Ben, y a une ambiance très particulière. C'est un lieu... C'est un très grand lieu en France de résidence d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent pour de l'écriture surtout. Donc voilà, il y a une ambiance particulière et puis il y a surtout la magie de ce lieu quoi, qui est complètement exceptionnelle. Donc là, on est en coulisses. Si on regarde derrière là, les projecteurs, derrière les pendrillons, tout ça, c'est effectivement de la vieille pierre qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et dedans, il y a une salle de spectacle. Donc ça a une magie particulière. C'est pas toujours facile techniquement.
Donc là, on rentre sur scène. C'est vrai qu'on voit vraiment les murs là sur le côté.
Oui, et puis encore des... fenêtres là qui sont occultées, mais...
C'est ça, vraiment, de superposer deux temps, deux espaces. Donc là, sur la scène, c'est quoi, on fabrique ?
Alors, c'est du mica, c'est un effet, ça fait un peu paillette, mais c'est pas l'effet que ça fait en lumière, c'est pour donner un sol un peu plus organique, en fait. L'idée, c'est d'avoir un peu l'impression d'être dans une grotte. Et c'est aussi, là, on se rend pas compte parce qu'il n'y a pas les lumières du spectacle, mais l'effet aussi que fait ce décor.
Oui, d'ailleurs, on voit qu'il y a une... Je ne sais pas si c'est peint, enfin, il y a des espaces,
oui,
des zones
fait, sur
le...
peinture, ouais.
un noir brillant.
Oui, voilà, il y a différentes nuances de noir. Donc ça, c'est Chantal Delacoste qui a fait les scénographies, les décors, qui fait un travail exceptionnel.
Et donc, c'est des structures, c'est quoi ? C'est du contreplaqué ?
Je pense, oui. Ouais. Des panneaux qui ont été faits donc, sur mesure, avec ce que nous, on appelle les fissures. Donc, c'est pas pour tous les jeux de lumière, et puis aussi pour les entrées-sorties de scène de Marie et des oiseaux.
D'ailleurs, on voit que là, il y a quelque chose qui était... C'est quoi, ça ?
Alors
un accessoire.
Ça devait être... Ça devait être...
Un masque ou un...
Alors, ça devait être en avant-scène, en fait, sur un support. Et finalement, ça a été enlevé parce que ça prenait trop l'œil. Donc, du coup, on l'a juste posé comme ça. C'est magnifique, ça.
Donc ça, c'est quoi ? C'est du... C'est de la toile, du tulle ?
Alors, il y a du tulle qui donne un peu ce relief. Et puis dessous, ça doit être, je ne sais pas exactement, je pense du fil de fer.
On dirait du fil de fer.
Enrobé avec... de quelque chose.
Et donc c'est
un crâne de corneille.
Ouais. C'est le travail de qui ?
Alors ça, c'est sur la conception de Chantal Delacoste.
Et donc là, c'est quoi ? C'est un piano ?
Oui,
dans le...
c'est le piano de Pascal Quignard. Ça, c'est aussi sa table d'écrivain.
Et des petites poches secrètes accrochées... La table, je vois ça, là, c'est drôle. Il y a de la musique sur scène dans le spectacle.
Oui, les multitalents, Pascal Quignard. Donc, on peut le voir à sa table, là, qui est un peu sa table d'écrivain. Lui, sur scène, il est Pascal Quignard. Voilà, il est. Alors, il doit ajuster quand même, pour certaines choses au niveau du spectacle, avoir un jeu d'acteur très modéré, mais il n'est pas acteur. Sur scène, il est lui-même. Et comme il est aussi musicien, bon, il joue. Il lit et il joue.
Comment on peut être soi-même sur scène ?
Ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question.
C'est
moi, je suis un homme de coulisses.
Ouais.
C'est par rapport à ses textes, en fait. Comme il écrit tous ses textes avant, il vient nous lire ses textes sur scène. Et puis, Marie, elle est là aussi pour incarner un peu des bulles de son esprit, des bulles de son imaginaire, en fait, par rapport à ce qu'il a lu. Mais quand il est sur scène, il est, voilà, c'est Pascal Quignard face au public. C'est...
Et vous êtes où pendant le spectacle, alors ?
Moi, je suis derrière.
Vous êtes derrière ? Derrière...
Derrière le décor.
Derrière le décor.
Ou un peu plus loin, en coulisses, selon les scènes.
Comment vous faites avec vos oiseaux ? Comment vous les emmenez ?
Alors, ils ont des petites caisses de transport. Où ils rentrent tout seuls dedans. Parce que moi, je travaille qu'en mettant douce, je les attrape pas et je leur mets pas de lanière de cuir aux pattes, ce qu'on appelle des jets, technique de fauconnerie. Donc voilà, c'est juste les petites caisses de transport ou sur le bras, tout simplement. Les chouettes, par exemple, Je les prends sur le bras et je les amène jusqu'au bord du plateau.
Vous les amenez, je ne sais pas, mettons ici, là. Vous arrivez avec votre oiseau et oui. Il va tout seul, il fait...
Alors, bah, ça dépend lesquels. Donc Marie, je lui donne la chouette, c'est-à-dire que la chouette va sur son bras en coulisses et elle rentre sur scène avec. Et la corneille, lui, il rentre tout seul. Il suffit qu'en fait, j'ouvre sa caisse derrière et il va directement... Sur la scène, tout seul.
Ça semble assez incroyable. Comment on apprend un oiseau à aller à un endroit sur scène? Comment vous avez fait ce travail-là?
Il a d'abord vu la scène. Alors lui, c'est un oiseau qui connaît très bien la scène puisqu'il a 12 ans et il a fait énormément de spectacles depuis qu'il est tout petit. Donc c'est une maître de scène, sans mauvais jeu de mots. Avant le travail de création, puisque la création a été finalisée ici, on a été 3 semaines en résidence. J'ai passé du temps d'abord à lui montrer le décor, la scène. On a passé beaucoup de temps avec Marie et Pascal pour aussi qu'ils se connaissent bien mutuellement, qu'ils se fassent confiance. Donc voilà, donc la scène, lui, aucun problème, quoi. Ils sont la plupart très intelligents. Et après, ceux de la famille des corvidés, donc les corneilles, comme celui-ci, Bayo, les pies, les geais, les corbeaux, etc., eux sont extrêmement intelligents, parmi les animaux les plus intelligents du monde. Ouais.
Alors les oiseaux, vous les avez petits, c'est comment vous trouvez un oiseau?
Alors ils sont nés en captivité, dans des élevages, tout simplement. On les a tout petits. Bayo, lui, par exemple, il ouvrait pas les yeux, il avait quoi, 2 jours quand je l'ai eu. Donc au début, j'étais... Son père ou sa mère. Et puis ça, on dit qu'ils sont imprégnés à l'homme, c'est-à-dire qu'on remplace les parents, on les nourrit à la main de l'homme quand ils sont tout petits. Alors après, ça, c'est des oiseaux qui peuvent perdre l'imprégnation si on ne l'entretient pas, parce qu'ils ont une telle faculté d'adaptation, d'analyse de leur environnement et des liens sociaux avec tous les êtres avec lesquels ils sont en relation, en fait, durant leur vie, que bon, maintenant, je pense que je suis plus son grand frère que son père, quoi, dans sa tête, avec l'âge.
12 ans, c'est... Ça représente quoi pour un oiseau? Ça fait quel âge? C'est un vieux monsieur ou pas?
Ça dépend des espèces. Pour une corneille, j'espère que c'est encore jeune. Après, sur des corneilles qui travaillent, extrêmement peu de références. Souvent, elles vivent pas vieux parce qu'elles ont des conditions de travail qui sont stressantes. Donc voilà, donc évidemment, la longévité est juste de quelques années. J'espère que ce sera au moins 20, voire 30 ans. Après, une chouette, ça va être 10, 15 ans. Un étourneau, 10 ans, c'est déjà pas mal. Ça dépend des espèces.
Est-ce qu'on peut les voir?
Oui.
Ah, où sont-ils? Là, c'est Bayo qu'on voit dans sa cage.
Ouais. Il se demande un petit peu là, le micro, en fait.
C'est ça, c'est la moumoute là, qui
exactement.
Qui l'intrigue.
Donc là, il regarde, il prend le temps. Quand il aura vu que c'est pas dangereux, que c'est pas un chien,
bonjour,
voilà, il vient voir. Il se demande quand même un petit peu ce que c'est, mais la curiosité
voilà.
A pris le dessus.
Tu fais quelle envergure, Bayo? Il a quelle taille?
Oh, il doit faire 70-80 cm d'envergure à peu près.
Comment vous parlez avec lui?
Alors moi je suis assez peu sur une communication orale, parce que bah, quand je dois le rappeler ou avoir des interactions avec lui en coulisses, il ne faut pas que ça s'entende de la salle, tout simplement. Donc c'est plutôt gestuel en fait. Après, moi j'ai des petits sons avec lui que je fais, qui sont un peu des voix de corneille humanisées, voilà, des choses comme ça, mais bon, on est... Lui, c'est pareil, c'est pas non plus un grand bavard. On est plus dans de la gestuelle, dans du regard, dans de la communication corporelle, en fait.
Est-ce que ça lui arrive d'être pas content ou fâché?
Ah oui.
De pas vouloir faire ce que vous lui demandez?
Oui, ça peut arriver sur des débuts d'exercice, par exemple, quand on va lui demander de faire quelque chose qu'il connaît pas encore. Ça peut arriver, oui, qu'il le fasse pas, tout simplement parce qu'il a pas compris le principe, parce qu'il sait pas ce qu'on lui demande aussi. Donc, du coup, bah, on utilise des petites récompenses pour le motiver, puis pour tout simplement qu'il comprenne aussi un mécanisme. Donc, c'est du renforcement positif. Hein. Moi, j'ai des méthodes qui sont pas du tout dans la contrainte où on leur impose. Il veut pas. Ça pose pas de problème, quoi. Mais on y arrive toujours avec un tout petit peu de temps, en fait. Et puis, bah, des encouragements, tout simplement. Il faut que lui aussi, il y a une part de volontaire dans ce qu'il fait, aussi une part de plaisir. Et à partir du moment où il est rassuré... En fait, on peut faire énormément de choses vu le niveau d'intelligence.
Hop. Il y a des belles plumes noires brillantes, justement.
Ouais, alors pas toutes.
Pas
parce
toutes.
Que là, il a un peu des trous dans les ailes. Moi, je le trouve pas très beau en ce moment. On est en pleine période de mue, là. Donc en fait, toutes les grandes plumes de la queue et des ailes sont en cours de renouvellement. Donc certaines sont encore de l'ancien plumage de l'an dernier, ça se fait une fois par an. Donc celles-ci sont un petit peu ternies, un peu usées, voilà, elles ont fait leur temps. Et les nouvelles sont juste en train de pousser. Donc
il est en transition.
Exactement. Là, au mois d'août, août-septembre, il sera parfait, hein, magnifique. Alors, en volière, je fais assez peu d'exercices parce que c'est chez lui. Mmh, et surtout que là, en plus, c'est une volière de loge où il est normalement que l'après-midi, quand il fait trop chaud dehors. Mais il a une volière en extérieur qui est plus grande. Et puis qu'en extérieur, c'est pas plus mal à l'air libre. Mmh. Là, c'est la volière de spectacle, quoi. Donc, qui n'est pas immense, hein, voilà, 2 mètres de long, 2 mètres de haut. Je ne le fais pas travailler en volière. On travaille sur le plateau, on travaille en dehors de la volière, mais pas en volière. Par exemple, voilà, la caisse de transport dont on parlait.
C'est une petite boîte, une boîte à chat, en fait.
Voilà. Enfin, à grand chat ou petit chien.
À grand chat ou ouais, petit chien. C'est fou, hein, il rentre tout seul dans...
Alors là, je lui ai ouvert la porte, mais sinon, il ouvre la porte lui-même.
Il ouvre la porte lui-même.
Oui, c'est chez lui, c'est un peu sa loge. Mm. En fait, il lui arrive jamais rien. Moi, je fais très attention à ce que dans cette caisse, il soit toujours en sécurité.
D'accord.
Il se sente en sécurité, en fait. Donc, ce qui permet, voilà, quand... s'il est dehors, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui l'inquiète un petit peu, ou... Ça, c'est un signe de contentement.
Ah bon ? Hop.
Donc voilà, il va rentrer de lui-même dans sa caisse, ou s'il n'a plus envie de travailler, il va rentrer dans sa caisse tout seul.
Et donc là, quand il bouge les ailes comme ça, c'est qu'il est content ?
Oui, c'est un peu assez typique des oiseaux imprégnés. Les bébés oiseaux font ça, un peu toutes les espèces. Quand ils appellent les parents, ils sont contents de voir les parents, un peu excités, donc ils battent des ailes sur place, des tout petits battements d'ailes comme ça. Donc là, il a gardé ça, voilà, ça c'est très content.
Il parle en plus, là, on l'entend aussi.
Un petit peu, ouais. Après lui, c'est pas un très grand bavard. Je crois qu'il est très intrigué par le micro, en fait. Quand même curieux. Il va voir le miroir. Il n'est pas sûr que ce soit lui, mais là, je crois qu'il a compris. Ça fait partie des très rares animaux capables de reconnaître leur image dans un miroir.
Et alors, comment on devient, je ne sais pas comment on dit, vous dites dresseur d'oiseaux, éducateur d'oiseaux ?
Éducateur. Moi, je me considère pas dresseur. Donc moi, je me considère pas dresseur parce que je suis que en méthode positive, en fait. Donc, pas de lanière de cuir aux pattes, pas de contraintes, ou extrêmement peu. Voilà, c'est pour ça que c'est pour moi... plus de l'éducation, quoi.
Et comment vous êtes devenu éducateur d'oiseaux, alors ? C'est quoi ?
Une passion d'enfant pour les oiseaux, en fait. En les voyant dans la nature, en se promenant dans la forêt, on les rencontre. Parce qu'il y a des vraies rencontres, on n'est pas que dans l'observation. Et puis en plus, dehors, les oiseaux nous observent beaucoup plus que nous, on ne les observe. Mais... Donc voilà, quand on a une approche douce, calme... On arrive à voilà, avoir des vraies rencontres. Donc moi, en tant que gamin, ça m'a fasciné. Et puis du coup, je m'y suis intéressé. Et je voulais être ornithologue, donc j'ai fait des études scientifiques. Et puis un jour, j'ai vu une volerie qui n'était pas très loin de chez moi. C'était un château où on fait voler des rapaces, c'est ça les voleries. Et puis du coup, ça m'a intrigué de voir ces oiseaux qui partaient en liberté, qui revenaient voir les fauconniers. Donc ça m'a intrigué. Et je suis allé discuter avec les fauconniers. Ils ont vu que je connaissais quand même bien les oiseaux, donc... On a sympathisé, j'y retournais toutes les semaines. Et puis, arrivé à l'automne, ils m'ont dit qu'il y aurait peut-être un poste pour moi pour la saison prochaine, quoi. Et donc, je dis, allez, j'arrête tout et on verra, quoi. Et sur le moment, je l'ai pas pensé comme ça, mais avec le recul, oui, c'était vraiment ce que je recherchais. Moi, c'était le contact, en fait, quoi. Donc, j'ai fait quelques années dans des voleries, comme ça. Et puis, bon, j'avais pas assez de temps passé avec chaque oiseau. Sur les méthodes de travail, je pensais qu'on pouvait aussi faire d'autres choses sur, voilà, les lanières de cuir, sur les contraintes par rapport aux animaux, etc. Et puis, là, j'ai rencontré un chorégraphe qui cherchait quelqu'un pour monter un projet de danse avec des oiseaux. Donc il m'a présenté son projet et l'idée m'a beaucoup plu. Et donc du coup, j'ai monté toute la partie animalière et l'éducation des oiseaux pour ce spectacle-là qui a tourné de nombreuses années. C'était La Confidence des oiseaux, il s'appelait. Et voilà, donc ça a duré très longtemps. Et puis depuis les dernières années, moi je suis totalement indépendant et je travaille pour toutes sortes d'artistes.
Et des oiseaux, enfin, vous en avez combien en fait ?
J'en ai pas loin d'une cinquantaine. Donc ça va du pigeon à l'étourneau, en passant par le cygne, la cigogne ou la corneille, et quelques rapaces.
Et là, pour ce spectacle, on vous a demandé des oiseaux un peu lugubres, entre guillemets, c'est-à-dire le corbeau, la chouette ou...
Alors lugubre, ça, chacun a sa façon de voir. En tout cas, avec, voilà, qui dégage quelque chose dans l'inconscient de fort. Ouais. Donc corneille et chouette, effectivement, chouette et frais, oui.
Est-ce qu'on peut voir les chouettes ou est-ce qu'on les embête pas ?
Non, c'est de l'autre côté. Elles ont à peu près 2 mois. Elles sont hyper jeunes. Donc du coup, il y en a une qui a même 10 jours de moins que l'autre, 9 jours. Et cette toute petite différence fait que c'est un peu trop tôt pour elles pour qu'elles soient en spectacle. Donc là, il n'y en a qu'une en spectacle pour le moment, qui est géniale, du coup.
Ce qu'on entend, c'est...
Le chantement, oui.
Oui.
Alors, c'est la voix des chouettes effraies. Elles n'ont pas de chant un peu plus sifflé ou flûté que peuvent avoir d'autres oiseaux, d'autres chouettes, d'ailleurs, d'autres espèces. Elles, voilà, c'est juste cette espèce de souffle qui peut avoir différentes variantes selon ce qu'elles veulent dire. Alors ça, c'est typique des jeunes d'appeler un petit peu tout le temps comme ça.
On dirait qu'elles sourient.
Très expressif, ils ont les yeux à la face, contrairement par exemple à la corneille qu'on a vu avant, a les yeux sur les côtés. Les rapaces nocturnes, eux, ont les yeux devant, donc ça leur donne des expressions.
Et alors là, elles ont comment dire, des plumes ocellées. Enfin, ça fait des...
Oui,
c'est je ne sais pas quelle couleur c'est, beige.
Bah, y a un fond, oui, un peu beige, presque roux, et puis par-dessus cette espèce de couverture grise avec des petits points blancs et noirs.
C'est étonnant parce qu'on dirait presque pelage, tellement le...
C'est fin.
Tellement c'est fin et tellement c'est presque lisse. Enfin, tout le monde a l'impression que c'est tout d'une pièce. Hein.
Alors c'est typique des rapaces nocturnes et même de beaucoup d'oiseaux nocturnes en général. En fait, un plumage extrêmement doux et souple pour pas qu'on les entende voler, pour que le vol fasse très très peu de bruit. Elles doivent surprendre l'effroi en pleine nuit, par exemple. Là, on voit cette plume-là. Là, des petits poils.
Oui.
Ça fait comme des petits poils, en fait, au bord de la plume. Et ça sert à casser la vibration de l'air quand elles volent, ce qui fait qu'elles peuvent passer à côté de l'oreille, on n'entend absolument rien. Le vol est parfaitement silencieux. Alors que la corneille n'a pas ce bord de plume, elle a le bord de la plume, la corneille, qui est très lisse. Elle a un vol qui est très bruyant, quoi. Elle n'a pas de proie à surprendre.
Donc du coup, il y a une, j'imagine, une utilisation en scène différente, puisqu'on a un oiseau qui ne fait pas de bruit, et l'autre, au contraire.
Oui, alors après, le son du vol n'a pas une très grande importance, là, sur cette pièce. C'est plus leur présence elle-même. Après, ça apporte quand même quelque chose. Elle, la chouette, elle vole, elle fait des petits vols, elle est encore jeune, entre Pascal et Marie sur scène, de quelques mètres. Donc effectivement, c'est un vol qui se fait parfaitement en silence. Alors que la corneille a un vol, à un moment du spectacle,
C'est beaucoup plus long en distance, effectivement, oui, qui est un peu plus bruyant, mais.
Et donc la plus grande, enfin l'aînée, c'est celle qui est là-bas.
Non, c'est celle-ci.
C'est celle-ci. C'est... J'ai l'impression qu'elle est plus grande de l'autre côté.
Oui, bon, ça c'est juste l'individu qui est.
C'est comme ça.
Qui n'a pas la même morphologie. Ouais.
Elle se tient sur une patte.
Oui, c'est la position de repos, ça. Alors là, les hochements de tête, c'est qu'elles écoutent. En fait, les disques qu'il y a, là, on dirait une espèce de parabole autour des yeux.
Oui.
Donc elles peuvent rétracter pour moduler le son, en fait. Ça leur sert à une sorte d'amplificateur à son. Les oreilles sont derrière, un peu décalées en hauteur, l'une et l'autre, et ça leur permet d'avoir une ouïe absolument exceptionnelle. Et donc, en fait, quand elles bougent la tête comme ça, c'est qu'elles écoutent, elles localisent très précisément chaque son. Donc ça leur donne souvent des attitudes un peu bizarres aux chouettes, c'est-à-dire qu'elles souvent elles écoutent avant de regarder. Donc on leur parle et elles regardent de l'autre côté, mais en fait c'est aussi pour localiser le son. Quoi. Donc...
Du coup, est-ce qu'elles ont une vue, enfin j'imagine que oui, mais une vue différente de celle des corneilles?
Alors, elles ont une vue qui est plus adaptée à la nuit. Alors, elles voient très très bien de jour, hein, mais elles ont voilà, une sensibilité à la lumière très particulière qui fait qu'en en presque obscurité, elles arrivent à voir quand même pas trop mal.
Alors, pour ces oiseaux-là, vous les, quand vous les avez, vous les faites travailler comment, de nuit ou,
On dirait qu'elle fait du hip-hop.
Oui, c'est vrai.
Alors non, je ne les fais pas travailler nuit. En fait, comme ils sont très très bien adaptés à la vie diurne, simplement, bah, les repas, quand ils sont tout petits, en fait, là aussi, c'est des oiseaux imprégnés, donc élevés à la main de l'homme, on fait les repas en journée. Et puis, bah, très rapidement, enfin, dès la sortie de l'œuf, en fait, ils sont sur un rythme diurne. Alors, ils ont un petit peu d'activité la nuit quand même, mais... Et puis quelques siestes un peu dans la journée. Mais voilà, c'est tout. Ils peuvent très bien travailler le jour sans souci.
Et elle s'appelle comment alors?
Donc c'est la petite là, qui fait du hip-hop, c'est Bubelé.
Bubelé.
Et la grande, celle-ci qui est en spectacle en ce moment, c'est Bubo.
D'accord. Elle se demande ce que c'est la moumoute là sur le micro.
Après, c'est pas des oiseaux qui vont avoir des craintes comme les corneilles sont des oiseaux particulièrement méfiants. Beaucoup moins une chouette effrontée.
Donc, ça doit être passionnant aussi de travailler avec si chaque oiseau a une personnalité différente.
Alors il y a un peu les espèces déjà qui ont des caractéristiques comportementales particulières à l'espèce, mais il y a vraiment une notion d'individu. Et par exemple là, ces deux-là ont un caractère très 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 différent. Quoi. Et même chez les corneilles, on a trois des corneilles, les trois n'ont rien à voir. Du coup ça c'est passionnant, il y a une vraie notion d'individu. Du coup là tout le travail sensible d'éducation devient très riche justement parce que c'est chaque individu qui a ses particularités auxquelles il faut s'adapter. C'est pas l'inverse en fait. Quoi. On les fait pas travailler avec un objectif de les mettre dans les moules et qu'ils soient tous pareils. Au contraire, moi ce qui m'intéresse c'est que chaque individu puisse exprimer ses différences de comportement. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est ce que eux proposent. Après, sur scène, ça donne des choses d'autant plus riches. Quoi. Les metteurs en scène savent déjà ce qu'ils veulent comme espèce d'oiseau. Et on a quand même une idée de ce qu'il va y avoir sur scène. C'est rare que ce soit moi qui propose une espèce, ça c'est quand même très très rare. Là, par exemple, avec Pascal Quignard et Marie Vial pour La Rive dans le Noir, eux voulaient absolument donc, un corbeau, donc une corneille, et des chouettes effraies. C'était écrit comme ça dans la pièce, parce que ça a un sens très précis, très particulier dans la pièce. Après, ça dépend des metteurs en scène aussi, mais moi j'aime bien travailler de manière où voilà, les oiseaux, on leur laisse le temps de proposer quelque chose par rapport à leur caractère et leurs caractéristiques personnelles. Ce qui est le cas là pour La Rive dans le Noir, donc c'est génial.
Est-ce que vous pensez que vos oiseaux ont un sentiment d'affection pour vous en fait?
Ah oui, oui, oui,
oui.
Ils ont des émotions, ça c'est absolument certain. Donc après, les sentiments comme nous, on conçoit de manière humaine, c'est une question très très délicate. Ils ont, je pense, des sentiments à leur manière, ça c'est sûr. Donc maintenant, moi, je ne suis pas dans leurs émotions. J'essaie de... Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur l'empathie, de comprendre leur état émotionnel, en tout cas. D'abord de le percevoir et, si possible, de le comprendre. Donc c'est, oui, il y a des formes d'attachement, il y a des particuliers. Donc après, sentiments pour eux, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ils ont des émotions, ça c'est clair. Des fois, très très fortes, ouais.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a un oiseau qui s'échappe ?
En fait, ce qui peut se passer, c'est qu'ils aient peur de quelque chose. Donc, mes oiseaux, moi, comme j'ai un rapport très fort avec eux, j'essaie de prendre le temps, quand je dois les sortir, par exemple, en extérieur, en liberté totale, qu'ils appréhendent leur environnement pour s'y sentir à l'aise. Mmh. Parce que paradoxalement, ils sont plus à l'aise sur un plateau de théâtre que dehors. Parce que dehors, ils peuvent arriver n'importe quoi, ils le savent. C'est pas forcément, ça peut être un milieu hostile d'extérieur, alors que sur le plateau, à partir du moment où ils ont vu que, voilà, que c'était une boîte fermée, avec suffisamment d'espace, ils sont hyper à l'aise. Donc dehors, voilà, on doit faire attention à ça, mais voilà, si on sort effectivement un oiseau qui a une buse qui passe, un autre oiseau qui lance un cri d'alarme, eux, ça leur fait peur, ils savent pas ce qui se passe, ils vont chercher à aller se protéger, en fait. Donc c'est pas, ils cherchent pas à fuir, à s'échapper. Ils cherchent à se protéger. Donc dans ces cas-là, ils vont jamais très loin. Donc ça pose pas de problème. Dès qu'ils ont vu que tout allait bien, donc c'est une question de secondes ou de minutes qui suit, ils reviennent tout de suite, quoi.
On nous observe.
Ah oui, toujours.
Est-ce que vous travaillez sur un autre projet en parallèle de celui-là ?
Sur pas mal d'autres projets, oui. Alors il y en a un qui me tient moi particulièrement à cœur, qui a démarré là juste avant de venir. Et ça va être, il va y avoir à nouveau quelques séances en rentrant. Là, je fais de la médiation par l'animal, c'est-à-dire que je mets mes oiseaux, comme ils sont hyper sociaux, en contact avec des personnes en difficulté, quelle qu'elle soit. Et là, en ce moment, c'est avec un centre pénitentiaire, donc une prison de mon département, où on fait des séances toutes les semaines. Donc ce sont des moments très, très forts, très, très riches.
Et alors, vous emmenez quels oiseaux au centre pénitentiaire ?
J'emmène donc Babayo, celui-ci, la corneille, les étourneaux, des perruches, les chouettes, donc je les ai depuis très peu de temps, donc elles n'y sont pas encore allées, mais elles vont y aller là en rentrant, les chouettes effraies, des geais, et voilà, c'est déjà pas mal.
Oui, et alors comment ça se passe en fait de vous proposer aux détenus, aux gens qui sont là d'avoir les oiseaux avec eux ou de les toucher
Alors oui, de les toucher, oui, puisque les oiseaux viennent sur l'épaule, sur le bras, voire jouent avec pour certains, pour ceux qui sont joueurs. Donc c'est un petit groupe, hein, on est 4 ou 5. C'est un travail qui s'est fait en préparation avec une psychologue, une ergothérapeute. Enfin, là, il y a une énorme préparation avant ça. Donc voilà, ils sont 4 ou 5 dans la pièce, assis normalement autour d'une table. Et voilà, on discute, c'est assez simple en soi, mais il se passe énormément de choses, quoi. Et donc l'oiseau vient, ne vient pas, il leur donne à manger, enfin voilà, il y a un échange assez sympa.
Ça doit être précieux, ça, de voir ce qu'ils en disent, en fait, de cette rencontre avec un oiseau.
C'est extrêmement précieux, oui, c'est même très très émouvant. Voilà, c'est des personnes qu'on place comme ça en prison. Quoi qu'ils aient fait, c'est pas le... Mais ça soigne rien, en fait. Ça arrange aucun problème, malheureusement. Donc ça les isole de la société parce qu'ils ont commis une faute. C'est ce système qui est comme ça. Le jour où ils sortent, voilà, il faut aussi qu'ils puissent revenir dans la vie normale, en société, quoi. Donc c'est pas en les isolant de tout et de tout état émotionnel, surtout, que ça fonctionne bien. On le sait. Qu'ils soient en contact avec les oiseaux, ouais, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est extrêmement précieux, extrêmement riche. Et là, j'ai hâte d'y retourner. Ouais.
Pour cette émission, le DAU remercie Tristan Plot, la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, Radio Campus Avignon et Plan B.
Le DAU vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.